France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le projet de loi sur l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer commence à être examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures médiatiques dans ce projet de loi, il y a l'obligation d'instruction pour tous les enfants à partir de 3 ans. Mais il y a au total 25 articles sur des sujets assez divers. Cela va du rôle renforcé des surveillants à l'école jusqu'à la création d'une nouvelle agence de formation. Une enquête est ouverte, le ministre de l'Intérieur le précise, après la blessure d'un manifestant samedi à la main. C'était lors de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Il a eu une main arrachée et a été opéré hier. Samedi également, 3 photographes qui couvraient la manifestation à Toulouse affirment avoir été délibérément visés par les forces de l'ordre. L'un d'eux ayant été blessé à la cuisse. Des milliers de personnes ont manifesté, non pas à Paris, mais à Madrid ce week-end. Elles protestaient hier contre de possibles discussion entre le gouvernement espagnol et les Catalans. Pedro Sanchez y voit un moyen d'apaiser les tensions avec la Catalogne. Pour protester contre cette initiative, près de 45 000 manifestants ont donc rempli la place Christophe Colomb dans le centre de la capitale espagnole. Demain par ailleurs, sachez que s'ouvre le procès de 12 dirigeants indépendantistes accusés de sédition pour la tentative d'accession à l'indépendance. C'était en 2017. Elles disent avoir gagné du terrain depuis le début de leur offensive contre la dernière poche du groupe État islamique, c'est à l'est de la Syrie. Les forces démocratiques syriennes ont lancé l'assaut samedi contre cette enclave située près de la frontière irakienne. Elles sont soutenues par la coalition sous commandement américain. Selon les estimations, entre 400 et 600 combattants djihadistes se trouvent encore dans cette poche. Un cinquième mandat, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est candidat à la présidentielle d'avril prochain en Algérie. Au pouvoir depuis 1999, il a été victime d'un AVC en 2013 et n'apparaît plus que très rarement en public.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Participation, représentation, information, hashtag le nouvel âge de la politique, algorithmes et démocratie, fake news, concertation, philosophie des réseaux sociaux, 4 tables rondes animées par les producteurs de France Culture pour comprendre le monde d'aujourd'hui. En partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Venez nombreux, mardi 19 février dès 9h30 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Très bon lundi sur France Culture, il est 6h03 et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en se levant tôt à la radio et à tous les autres qui préfèrent nous écouter en ligne ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité littéraire dans le réveil culturel et aujourd'hui je reçois Philippe Besson pour son dernier roman « Un certain Paul Darigrand ». C'est aux éditions Julliard, une histoire d'amour de jeunesse, eh oui. Le réveil culturel est préparé par Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui Marie le Peintre à la prise de son.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Philippe Besson.
Bonjour Toufik Hakem, bonjour à tous.
Une histoire d'amour de jeunesse, mais on peut aussi présenter autrement votre dernier roman. On peut dire que c'est un mélodrame à caractère autobiographique qui se déroule à la France des années 80, qui a pour protagonistes principaux deux étudiants qui s'aiment passionnément et en secret. Et en même temps, c'est la chronique d'un amour au temps d'un nouveau choléra. L'un des deux protagonistes, le narrateur, c'est l'auteur lui-même. C'est vous, Philippe Besson, il y a 30 ans, quand vous aviez 22 ans. L'autre, un peu plus âgé au moment des faits, donne le titre au roman. Qui est donc ce certain Paul Darigrand ?
Ah, Paul Darigrand, c'est quelqu'un que je croise au début de l'automne 1988, alors que je commence ma dernière année d'études à l'université de Bordeaux. Je fais ce qu'on appelait à l'époque un DESS, je crois qu'aujourd'hui on dirait un Master 2, je faisais ça en droit social, et lui fait un autre DESS, et ce jour-là, de la rentrée, je le croise à peine une seconde, nous nous cognons voilà, à la sortie de la salle de classe, et il n'y a rien de plus, je ne sais pas qui est ce jeune homme.
Comment il est ?
Il est grand, brun, avec des boucles brunes assez lourdes, un regard noir, très noir, dont on ne sait pas s'il contient du dédain ou du désir. Et voilà, il est déjà impressionnant pour moi, qui suis en plus un petit gabarit et qui a tendance à m'excuser tout de suite. Bon, donc lui, il en impose. Il a quelque chose, il a une présence, il a une allure, c'est une évidence. Et 2 heures plus tard, ou 3 heures plus tard, je le retrouve par le plus grand des hasards ce qu'on appelait au Resto U, vous savez, c'est le restaurant universitaire, où tout le monde a choisi de se réunir parce que c'est le jour de la rentrée, qu'on est sociable et qu'on fait, voilà, ce qu'on a à faire. Et je m'assois et je vois une jeune fille de mon DESS qui vient s'asseoir devant moi. Et lui surgit, d'on ne sait où, mais quand je dis d'on ne sait où, c'est vraiment ça. Je sais pas où il était l'instant d'avant. Et il dit non, je vais m'asseoir là parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'on déjeunerait ensemble. Et je le regarde et je me dis, ce type, je sais pas qui c'est, son mensonge est un mensonge éhonté. Et je suis harponné, amoureux à la première seconde. C'est-à-dire, je me dis, quelqu'un qui est capable d'avoir cette malice, cette audace, cette malignité, cette capacité à dire un formidable mensonge juste pour s'asseoir là en face de moi, c'est sans doute qu'une histoire commence.
Alors, cette histoire, c'est une histoire d'amour. Je le disais, c'est une histoire d'amour de jeunesse et c'est raconté comme tel d'ailleurs. Comme cela a été tellement fait en littérature. L'auteur se souvient d'une passion amoureuse, l'auteur se souvient de l'âge du plaisir et de l'insouciance contrariée par les vicissitudes de la vie. C'est très classique. En effet, et vous avez même l'audace, Philippe Besson, pour nous entraîner dans ce roman, de nous faire le coup, alors on ne peut plus classique, de la vieille photo de jeunesse. Bien sûr, on tombe dessus par hasard, bien sûr, et évidemment lors d'un déménagement. Et c'est cette photo vous représentant avec un autre jeune homme qui va être donc le point de départ de ce récit, de ce roman. C'est vrai, ça commence d'une manière classique. Vous inscrivez cette confession romancée de votre amour de jeunesse dans ce qu'on peut appeler un genre littéraire, en y respectant les codes d'ailleurs. Avec quand même ce léger détail, ce coup de la photo, nous prévenez-vous, on nous l'a déjà bien sûr fait, mais bientôt ça sera fini. Ça sera fini parce que désormais, les souvenirs tiennent dans des téléphones portables et que nul ne sait ce qu'elles vont devenir et si elles vont durer, ces photos. Alors, vous ne faites pas que vous inscrire dans un genre, vous le questionnez en même temps, vous l'empruntez comme si c'était la dernière fois.
Oui. Oui, alors le coup de la photo, ça ressemble à un coup, sauf que c'était la réalité, la vérité. C'est-à-dire que j'allais déménager et vous savez, on a des boîtes à chaussures comme ça en haut des placards et comme ils sont en haut des placards ou des armoires, on n'y va jamais, on ne les trouve pas, on ne s'y intéresse pas. Puis quand on déménage, il faut faire le tri dans les affaires. Et du coup, le tri dans les souvenirs, ce qui est toujours un truc un peu déchirant. Bon. Et là, j'ouvre la boîte à chaussures et je retrouve ces photos que je n'ai pas vues depuis longtemps pour une raison simple. C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout tient dans un téléphone portable. On a perdu cette habitude d'avoir ces photos en noir et blanc ou en couleur avec des rebords, bon, ou crânelés, bon. Et je tombe sur cette photo, je la reconnais évidemment en une seconde, je sais qui sont les deux jeunes hommes, les deux garçons sur la photo. Et c'est terrible parce que vous êtes renvoyé en une seconde à votre passé, à vos 20 ans, alors que vous n'avez pas prévu cela. Donc vous êtes un peu dérouté, troublé, décontenancé. Et à ce moment-là, je me dis, il est peut-être temps de raconter cette histoire-là. Mais ce n'est pas seulement ça l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est cette phrase que j'ai mise en exergue du livre et qui est une dernière phrase sublime, magnifique du livre d'Annie Ernaux, Les années, qui est « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Et au fond, quand je trouve la photo, ça fait écho à cette phrase-là que je trimballe déjà depuis longtemps et que j'ai d'ailleurs... mise à l'épreuve en écrivant Arrête avec tes mensonges il y a 2 ans, c'est-à-dire que la jeunesse s'enfuit, elle est presque définitivement enterrée, et si on veut s'en souvenir encore, si on veut en garder un peu de la substantifique moelle, de la ferveur et de la fièvre qui l'animait, alors il faut en parler maintenant, parce qu'après ce sera trop tard.
Un certain Paul Darigrand, c'est votre roman le plus littéraire aussi, Philippe Besson. Parce que vous racontez, au-delà de l'histoire d'amour, on va y revenir, votre état d'écrivain. Comment des personnages réels que vous avez transformés dans des fictions, et après ces fictions ont été adaptées au cinéma pour certaines d'entre elles, donc une autre couche de fiction, et bien comment vous essayez maintenant de les retrouver tels qu'ils étaient en vrai?
Oui, je montre l'envers du décor. C'est-à-dire que mais j'ai toujours dit la même chose. Moi, je me suis longtemps défini comme un romancier, quelqu'un qui fait fiction, quelqu'un qui fait appel à son imagination, quelqu'un qui raconte des histoires. J'adore raconter des histoires. Mais j'ai toujours dit en disant cela que, évidemment, aucun romancier au monde, ni moi ni un autre, ne peut écrire ses histoires sans emprunter à sa vérité intime, à ce qu'il a connu, à ce qu'il a traversé, à ce qu'il a éprouvé, à ce qu'il a ressenti. Bien sûr qu'il y a des épisodes de nos vies, mais on noie ça dans des histoires fictionnelles, on se dissimule derrière des rideaux, on avance un peu masqué.
Et
on
là, porte, vous faites voilà. Le contraire.
Et là, je fais le contraire. C'est-à-dire, je dis, je vais vous montrer la réalité derrière cette fiction, je vais vous montrer l'envers du décor, et je vais vous expliquer que ce que je vous ai raconté jadis empruntait à une vérité intime profonde, et vous évoquiez par exemple son frère, puisque c'est devenu le film de Chéreau. Ouais. Son frère, je racontais l'histoire de deux frères dont l'un tombait malade et moi j'étais le bien portant. J'étais celui qui accompagnait l'autre vers la mort.
Alors
voilà.
C'est le contraire.
Et là, je vous dis, ouais. Ben en fait, le mourant, c'était moi.
Donc vous racontez en plus les mots qui ne viennent pas quand il faut décrire avec précision la passion des sentiments, la fièvre des corps. Ça donne des passages magnifiques comme celui-ci. Je voudrais tant savoir écrire, écrire exactement, écrire parfaitement à propos de ça, ces moments, tout ce qui se tenait dans ces moments, écrire à propos d'une certaine lumière tombée un jour à l'oblique sur son visage, à propos d'une odeur dont j'ignorais la composition mais dont je savais qu'elle était la sienne, écrire sur des gestes qui lui échappaient et qui instantanément me foudroyaient. Je voudrais trouver les mots justes, absolus, afin qu'on sache ce que j'éprouvais alors, mais je ne sais pas. Je n'y arrive pas, c'est inexprimable par moi. Avec des mots, c'est toujours tellement moins que ce que c'était. Voilà la pire des frustrations. Non, je ne sais pas écrire ça, l'écriture comme il faudrait. Mais c'est incroyable que vous écriviez ça. Et en même temps, vous savez très bien que vos lecteurs ressentent exactement ce que vous ressentez.
Mais parce que justement, je voulais donner à mesurer ce que c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, vous êtes devant quelqu'un et ce quelqu'un vous regarde d'une certaine manière. Il y a dans son regard sombre une souffrance, un élan, une ferveur, quelque chose. Vous savez ce que c'est quand vous voyez ce regard, vous reconnaissez ce qu'il y a dans ce regard. Puis vous voudriez le raconter et vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire les mots sont insuffisants parce qu'il y a aussi le frisson que vous avez éprouvé, il y a aussi l'environnement, l'endroit où c'était, le café, le bruit dans le café, le léger tremblement de la paupière, ces choses-là. Et vous voudriez raconter tout ce qui se tenait dans cette microseconde, dans cette nanoseconde et vous n'y arrivez pas parce qu'il faudrait des centaines de pages pour y arriver. Et vous vous dites, mais si je le dis, je suis certain que le lecteur saura que ce à quoi je fais référence parce que lui-même, ça lui est arrivé. Parce que lui-même, le lecteur ou la lectrice s'est trouvé face à un regard, qu'il a vu dans ce regard quelque chose qui l'a troublé, qui l'a ému, qui l'a emporté quelque part. Et il sait que c'est ineffable, que c'est inexprimable, que c'est une chose comme ça en suspension, mais c'était magique et ça a changé la trajectoire de son existence.
Voilà, maintenant, quand je dis Philippe Besson avance sans masque, il est démasqué, je ne parle pas seulement de vos amoureux de jeunesse, je parle aussi de votre métier d'écrivain.
Oui, bah parce que j'essaie de raconter comment ça se fait les livres, comment ça arrive les livres, de quelle matière ils sont fabriqués, avec quoi ils me portent ou je les porte, non pas pour raconter une fabrication, mais pour dire que c'est avant tout une aventure humaine et une aventure intime, incroyablement intime, avec l'espoir que précisément cet ultra-intime deviendra de l'ultra-universel.
Voilà, mais il y a d'abord cette histoire d'amour avec ses incroyables silences, ses incroyables gestes. Si peu aura été dit en mots dans cette relation, tant aura été dit en gestes. C'est vertigineux, c'est ce que vous écrivez. Donc c'est une histoire d'amour qui épuise les codes d'une romance gay avec plutôt élégance. Cela se passe pas dans un campus universitaire, comme on pouvait s'attendre, mais presque. Pour les héros, on a le beau gosse surfeur et l'intello à lunettes, un casting parfait pour l'adaptation au cinéma. Et pour la dramaturgie, bah, l'un des deux amants aime aussi une jeune fille. Ça rend encore plus incertaine l'issue de cette histoire d'amour naturellement condamnée au secret. Mais vous y introduisez un autre élément de dramaturgie, la maladie, et un autre décor, l'hôpital. le héros va peut-être mourir, et mourir jeune, et pas de la maladie qui est en train de décimer la jeunesse gay et ses amis. C'est ça qui est incroyable.
Ouais. Bah, c'est héros, c'est Thanatos. C'est évidemment l'amour et la mort. C'est évidemment le corps qui exulte, le corps dans la sensualité d'un côté, de l'autre côté, le corps dans la souffrance, dans l'inquiétude, le corps mis à l'épreuve. C'est ça que ça raconte. Et ça se passe au même moment. C'est-à-dire, je dis à un moment, finalement, je suis tombé malade juste après être tombé amoureux. C'est toujours une histoire de chute. Alors, il y a des chutes délicieuses et des chutes plus dangereuses. Et c'est vrai qu'on est à la fin des années 80 et que moi j'appartiens à cette génération sacrifiée, c'est-à-dire j'appartiens à la génération de ceux qui ont eu 17 ans au milieu des années 80 et qui n'ont pas eu le temps d'en avoir 22 ou 23 ou 25 parce que ça a décanillé très fort et très vite. Moi je nous vois souvent comme une ligne de jeunes gens comme ça, de jeunes soldats qui seraient montés à l'assaut sur une colline et mais en haut de la colline il y avait des snipers et les balles sifflaient et c'était des balles réelles et les gens tombaient. Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés à ce moment-là. Tous ceux qui ont vécu cette époque peuvent dire les noms qu'ils ont dû rayer dans les calepins ou ceux qu'on a écrits sur des tombes qu'on va visiter de temps à autre. Et donc, quand effectivement je suis devant ce médecin et que ce médecin me dit, avec une expression un peu bizarre, il y a une anomalie dans votre sang, un truc qui vous glace un peu, évidemment. Évidemment, mon premier réflexe, c'est de me dire « donc, moi aussi ». Et puis non. Et puis non, dans cette époque...
Même si ça y ressemble.
Oui, bien sûr, mais c'est pas ça. J'échappe à la malédiction de l'époque, si je puis dire, à la malédiction des garçons aussi de l'époque. Mais c'est effectivement une maladie un peu insaisissable, puisque je n'ai plus de plaquettes dans le sang. Ça veut dire que je ne coagule plus. Ça veut dire que je risque l'hémorragie à chaque instant. Voilà, et que donc j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il faut rentrer dans un long tunnel de soins, de traitements qui tous les uns après les autres échouent.
Et cette épreuve va être aussi l'occasion de prouver cet amour naissant de part et d'autre.
Oui, parce que au fond, alors d'abord on se pose la question de savoir si le corps répond, si le corps est somatique, c'est-à-dire on se dit est-ce que finalement quand je tombe malade, c'est une façon de dire que je culpabilise, que parce que cette transgression, parce qu'aimer un homme marié, parce qu'aimer dans l'ombre, aimer dans la clandestinité, ce serait pas bien, ce serait immoral, et que donc je serais rappelé à l'ordre, ou alors on se dit mais l'autre qui s'éloigne, si je le rattrapais un peu avec cette maladie-là, peut-être si je le gardais encore un peu avec moi avec cette maladie-là. Donc il y a toutes ces questions qui se posent, et puis encore une fois le corps mis à l'épreuve. Donc c'est vrai qu'en même temps ça va nous rapprocher parce que lui à ce moment-là est parti dans une autre ville et on va commencer à se parler la nuit au téléphone à l'hôpital. Et je crois que
surtout parce qu'il n'aime pas l'hôpital, il n'aime pas.
Non, il n'y vient jamais. Ouais, ouais. De ça. Et c'est vrai que cette distance téléphonique, si je puis dire, va créer une proximité sentimentale incroyable. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être dans les mots échangés, dans le combiné du téléphone à la nuit tombée, il y a plus d'amour que dans les corps qui s'étreignent. Peut-être que les corps qui s'étreignent, c'est normal, on a 20 ans, on baise, voilà. Là, il y a quelque chose qui se joue et qui est peut-être un truc tout bête qui s'appelle le sentiment.
Voilà, c'est un amour de jeunesse. Ce sont les années 80, et leur série impitoyable. C'était l'époque où le bicentenaire était fêté avec un gigantesque spectacle de Jean-Paul Goude aux Champs-Élysées. C'était aussi l'époque de Boum Boum, Tcha Tcha Tcha.
Thank you.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Quel lien entretenez-vous avec les chansons de vos 20 ans, Philippe Besson, ou les chansons de vos amours de jeunesse? Puisqu'il est aussi question de cela dans votre dernier roman, Un certain Paul Darry Grand, paru aux éditions Julliard. L'histoire d'amour sert aussi à un inventaire de ce qui a constitué la culture de vos 20 ans. Hervé Guibert en littérature et le top 50 dans les clubs, comme Niagara là.
Absolument. Ben oui, mais je suis comme tout le monde, moi, au fond. C'est-à-dire que les chansons, elles nous accompagnent à chaque période de nos vies et souvent, on les associe à un épisode particulier. Alors, vous voyez, par exemple, cette chanson qu'on a écoutée, « L'amour à la plage » de Niagara avec la chanteuse Muriel, c'est une chanson comme ça, très joyeuse, qui marque vraiment la fin des années 80, qui est un symbole de ça. C'est toute l'époque d'AO et tout ça. Et en même temps, moi, je me souviens de l'avoir vue sur un petit poste de télévision grésillant dans une chambre d'hôpital, tandis qu'on était en train de me faire une ponction sternale. C'est-à-dire tandis que quelqu'un était en train de me ponctionner de la moelle osseuse pour savoir si j'allais survivre ou pas. Et donc j'associe cette chanson à ça. De la même manière, il y a une autre chanson que j'évoque dans le livre qui est Sign Your Name de Terence Trent D'Arby. Mm-hmm. Et ça, je l'entends sur un poste de radio le matin de la première nuit avec Paul. C'est dans une maison de vacances à l'île de Ré. Je suis là dans la cuisine de cette maison de vacances et il y a la radio et cette chanson est diffusée. Donc, les chansons, elles nous accompagnent. Truffaut faisait dire ça à Mathilde, son personnage de la femme d'à côté, joué par Fanny Ardant. Elles sont bêtes, les chansons, mais elles sont pas si bêtes que ça, parce qu'elles disent qu'on a été heureux ou qu'on est heureux. Elles disent « ne me quitte pas ». Elles disent qu'on a envie de garder les gens. Et elles racontent ce qu'on est, racontent nos vies. Donc voilà. Et la littérature, Guibert, oui, bien sûr. Parce que à ce moment-là, en 88-89, je rentre dans une librairie et j'achète ce livre qui s'appelle « Les gangsters » d'Hervé Guibert. Et j'ai déjà cette passion pour lui. J'ai lu mes parents. Il n'a pas encore évidemment écrit le triptyque sur le sida qui fera hélas sa gloire. Et en même temps, voilà, dans les livres de Guibert, tout d'un coup, j'ai reconnu quelque chose de moi. C'est la première fois qu'en littérature, je me dis, mais c'est très étrange cette histoire, parce que voilà un type que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré et qui parle de moi. Comment c'est possible? Je découvre que les livres, ils parlent de nous. Et c'est Guibert qui me fait prendre conscience de ça. Vous voyez, c'est comme les chansons. Ça parle de nous. Ça parle de quelque chose de profond qu'on n'aurait pas su déterminer ou nommer. Voilà ce que ça raconte.
C'est donc l'histoire, l'époque. Parlons maintenant de la géographie de ce roman, Philippe Besson, un certain Paul Darry Grand. C'est la France des villes de province.
Hein. Oui, absolument.
Paris n'apparaîtra qu'à la fin du récit. Paris, je dirais même, signifie la fin de l'histoire.
Absolument. Paris, c'est la fin de l'histoire. L'histoire, c'est Bordeaux, fin des années 80. À ce moment-là, Bordeaux, c'est une ville sombre, hein, c'est des murs de suie. Aujourd'hui, c'est devenu une ville blonde, c'est une ville écolo, c'est une ville où les rues sont maintenant rendues aux piétons. C'est une ville qui a redécouvert son fleuve, la Garonne. À l'époque, pas du tout. On n'allait pas au bord du fleuve, il y avait de la bagnole partout. Bon, c'était une ville qu'on disait de la bourgeoisie décadente. Bon, donc moi, je viens de là. J'avais fait ma prépa HEC au lycée Montaigne, cours Victor Hugo, c'était vraiment une façade de prison. Bon, j'habitais dans une chambre d'étudiants, dans un hôtel particulier qui appartenait à une vieille caldoche qui était rentrée en métropole. Voilà, c'était ça. Et puis,
Rue judaïque,
absolument. Et puis, il y a cet échappatoire vers l'île de Ré déjà, parce que l'île de Ré, c'est le territoire de mon enfance. Moi, je suis né en Charente, et donc quand vous êtes charentais, le littoral le plus proche, c'est l'île de Ré. Et voilà, je me souviens du bac de l'île de Ré, parce qu'à l'époque, quand je suis allé la première fois, il n'y avait pas encore le pont, bien sûr. Et l'émerveillement, l'éblouissement de découvrir la mer là, et de prendre un bateau et de traverser pour aller de l'autre côté. Et donc, je dis à Paul et à d'autres, allez, on va partir dans l'île de Ré. Sauf qu'on y va en hiver, en décembre, et qu'ils voient un truc totalement désolé, il pleut partout, enfin c'est atroce, donc ils ont l'impression que j'aurais survendu le truc. Et moi je suis heureux, parce que je me dis, dans ce territoire-là, il peut se passer quelque chose. Je crois que la géographie dit aussi quelque chose de nous. Les lieux c'est des liens, les lieux c'est de notre mémoire, les lieux ça raconte ce qui nous est arrivé, donc... Et je ne peux pas écrire, d'ailleurs, si je ne connais pas le lieu du livre.
Un livre par an, une rencontre tous les hivers, ça devient un rituel. Philippe Besson, ça dure déjà depuis quelques années.
Et presque 20 ans, oui.
Et pourvu que ça dure encore. mais cela veut dire que vous écrivez vite.
J'écris tout le temps, d'abord. Et j'écris, en tout cas, j'écris dans l'élan, j'écris dans la ferveur. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, je ne peux pas écrire dans la difficulté, je ne peux pas écrire contre, je ne peux pas écrire en me disant, ah là là, j'y arrive pas, je rature, je corrige, je refais, je reprends. Ça, je ne sais pas faire du tout. tout. J'ai besoin que ça soit fluide, que ça coule comme une eau, comme une autre source. J'ai besoin que ça avance. Et j'écris d'ailleurs le livre dans l'ordre où il sera lu. Je ne peux pas écrire la fin avant le début, le milieu, après je sais pas quoi. Pas du tout. J'avance comme ça.
Ça reste un roman, ça reste toujours des romans. Il y a de la romance dans ces faits de... Parce que là, vous racontez le récit de votre jeunesse.
Là, alors évidemment que c'est essentiellement autobiographique, mais il y a du roman pour au moins deux raisons. La première, c'est que j'ai changé ici ou là quelques petites choses, ne serait-ce que pour qu'on ne reconnaisse pas le personnage principal et qu'on ne puisse pas le retrouver, évidemment.
Donc Paul Darry Grand ne s'appelle pas
Paul Darry Grand. Absolument, bien sûr, il n'est pas né à l'endroit où je l'ai fait naître, etc. Donc il y a comme ça, j'ai brouillé les pistes pour être certain qu'on ne le retrouverait pas, et pour protéger son intimité. Et l'autre chose, c'est que... quand vous faites un récit, un témoignage, vous mettez les gens à l'écart. C'est-à-dire, vous dites, je vais vous raconter mon histoire, vous la prenez ou vous la prenez pas. Moi, mon ambition, elle n'était pas du tout ça. Mon ambition, c'est peut-être très immodeste, c'était de faire littérature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous racontez une histoire en espérant que les gens vont lire la leur, qui vont entrer dedans et qui vont reconnaître quelque chose d'eux-mêmes. Et là, le livre devient un objet de littérature.
Quitte à passer par la littérature de genre, oui, pour bien détourner, effectivement, les codes du genre. Philippe Besson, votre précédent livre, un personnage de roman avait pour héros Emmanuel Macron à la conquête du pouvoir. Vous êtes un ami du couple présidentiel, ça tout le monde le sait. Quand le président vous a nommé le 30 août dernier consul à Los Angeles, la presse y a vu une récompense pour service rendu. Cela n'a pas dû vous surprendre.
Ah, rien ne m'a surpris dans ce qui a été dit à ce moment-là. J'en connais trop sur la nature humaine pour être véritablement surpris. J'ai juste été néanmoins étonné par deux ou trois choses. La première, c'est que on a parlé d'une nomination, mais de nomination, il n'y a point. C'est une fake news. C'est-à-dire qu'on, vous savez, pour être nommé consul, il faut qu'il y ait un décret nominatif. Il n'y a pas de décret nominatif envoyant Philippe Besson à Los Angeles.
On vous a juste proposé.
Pas du tout. On est effectivement au stade de la discussion, de la conversation. Il n'y avait pas de nomination officielle du tout. Mais ça, il aurait fallu faire un travail de journaliste pour le savoir. Et certains, sans doute, ont dû oublier qu'ils avaient une carte de presse et que peut-être ils auraient dû vérifier. Donc, il n'y a pas eu ça du tout. Qu'il y ait des conversations avec le président de la République et que par ailleurs le président de la République souhaite faire en sorte que les consuls généraux puissent ne pas être seulement des fonctionnaires. Parce que, en fait, aujourd'hui, les consuls généraux sont forcément issus de la fonction publique, à la différence des ambassadeurs, qui ne le sont pas forcément. Eh bien, le président de la République a décidé que, dorénavant, on pourrait nommer aussi à ces postes-là des artistes, des humanitaires, des ingénieurs, des médecins, etc. Bon. Pour ce faire, il a passé un décret en Conseil des ministres, et ce décret a été attaqué devant le Conseil d'État par les syndicats du ministère des Affaires étrangères qui considèrent qu'il faut forcément être fonctionnaire pour être consul. Le recours devant le Conseil d'État sera, je crois, examiné à l'été prochain. Donc, on verra en fonction de ce que sera la décision du Conseil d'État. S'il y a lieu de reprendre. Non, mais s'il y a lieu de reprendre ou non les conversations avec le président de la République. C'est-à-dire que si le décret est validé, j'imagine que je reprendrai mes conversations avec le président de la République sur ce sujet. Et si le décret est invalidé, il n'y aura pas lieu de reprendre les conversations.
Un certain Paul Darry Grand, c'est votre dernier roman, Philippe Besson. Une fois de plus, vous nous scotchez de la première jusqu'à la dernière phrase, on peut le dire. Parce qu'il y a un roman, mais je ne peux pas en dire plus. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
L'esprit d'ouverture.
France Musique et France 3, partenaires des 26e victoires de la musique classique. Mercredi 13 février à 21h à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, avec Lang Lang, Roberto Alagna, Alexandra Koujak, l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Julien Leroy. en direct sur France 3 et France Musique. Présentation Leïla Kaddour-Boudadi et Judith Chen. France Musique, une radio de Radio France.
Prenons les chemins de la philosophie, chaque jour sur France Culture à 10h, Adèle Van Rett.
Des entrailles dégoulinantes et des charognes puantes représentées en peinture. Du sang visqueux et qui gicle sur la caméra. Du mode d'existence des zombies en littérature et dans les séries jusqu'à l'option ultra-gore activable dans les jeux vidéo, cette semaine, nous convions Aristote, Platon, Baudelaire et Canguilhem pour vous proposer une philosophie du gore.
Les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des journalistes de Libération et des Inrocks accusés de harcèlement via la Ligue du LOL, ils s'en sont pris à des femmes, des pigistes, de jeunes journalistes, c'était il y a 10 ans. La parole s'est libérée sur les réseaux sociaux ce week-end, d'où nous y reviendrons. Nous analyserons aussi l'ampleur de la falsification de médicaments dans le monde. Depuis 2 jours, les pays membres de l'Union européenne doivent mettre en place des règles strictes, des règles communes, et ce pour éviter les faux médicaments. Et puis un programme social pour le Parti social-démocrate en Allemagne. Le SPD est en pleine crise alors que débute une année électorale importante. Nous irons outre-Rhin. Insultes, moqueries, photomontages racistes des victimes de la Ligue du LOL témoignent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, 10 ans après avoir été cyberharcelés. En 2009, en effet, un groupe d'internautes a été sur Facebook, la Ligue du LOL. Donc, elle était composée de journalistes, de professionnels de la communication et de la publicité. Ils ont utilisé Twitter pour s'en prendre à des blogueurs, des féministes, de jeunes journalistes. Et aujourd'hui, les victimes brisent le silence. Marine Protet.
Elle a à peine 20 ans quand elle devient une des cibles de la Ligue du LOL. Capucine Pio travaille alors dans la presse féminine. Elle est très active sur Twitter. 2 motifs suffisants pour être l'objet de moqueries. Traumatisée, elle décide d'abandonner son rêve d'être journaliste. Elle change de profession.
Je me suis fait traiter de pute quand même sur Internet. On critiquait beaucoup mon physique parce que dans la tête de ces gens, avoir un blog beauté, donc pour parler de cosmétiques, il fallait être belle. Je suis convaincue aujourd'hui que je serais journaliste si ma réputation n'avait pas été freinée par ce type d'action.
Des hommes aussi sont harcelés. Mathias Jambon-Puyé est blogueur. Il publie sur Internet des textes intimes qui sont rapidement parodiés par ses bourreaux. Il essaye de leur en parler. Mais le dialogue est impossible, il n'y a que des menaces physiques qui finissent par les éloigner.
Les virilistes ne répondent qu'à la virilité, ce qui est dramatique. J'en ai attrapé un notamment par le col, et je lui ai proposé qu'on s'explique, comme on dit, entre machos. Et à ce moment-là, il a perdu toute contenance et il est parti se réfugier très très loin dans le bar. J'ai attendu pendant plusieurs heures qu'il sorte, il n'est jamais sorti, mais je n'ai plus jamais eu d'ennui de la part de cette personne par la suite.
Toutes les victimes que nous avons jointes affirment que ces pratiques n'étaient pas isolées, mais elles n'ont pas porté plainte de peur de perdre leur travail.
Et précisons que les harceleurs mis en cause, des journalistes reconnus pour certains, ont aussi réagi. Certains s'excusant de ne pas s'être rendu compte de la portée de leurs mots, d'autres expliquant que ces pratiques correspondaient à une époque. Nous ne nous habituerons jamais à ces visages tuméfiés. C'est ainsi que le président de SOS Homophobie réagit à l'agression de 3 personnes à Bordeaux. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi. 2 des 3 victimes ont porté plainte. Elles ont été agressées à la sortie d'un bar bordelais alors qu'elles fumaient une cigarette. Que s'est-il passé samedi devant l'Assemblée nationale à Paris en pleine mobilisation des Gilets jaunes? C'est ce que tente de savoir la justice. Une enquête a été ouverte pour comprendre comment un manifestant a pu avoir la main arrachée lors d'une intervention des forces de l'ordre. En bref, encore, le projet de loi pour une école de la confiance est débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale et toute la semaine d'ailleurs dans l'hémicycle. Principale mesure de ce projet de loi, l'abaissement de l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans pour tous les enfants. Cela pourrait obliger les communes à financer les maternelles des écoles privées autant que les écoles publiques. Nous en venons maintenant à cette obligation entrée en vigueur il y a 2 jours tout juste. Chaque boîte de médicaments vendus dans l'Union européenne doit être dotée d'un code-barre unique qui garantit son authenticité. Une exigence européenne qui vise à lutter contre la contrefaçon. La directive date de 2011, mais il a fallu la calquer à tous les pays membres ces dernières semaines, ces derniers mois, équiper ainsi les chaînes de production, permettre aussi à tous les pharmaciens de scanner les codes-barres. En France, le système est l'un des plus sûrs au monde, mais à l'échelle planétaire, les faux médicaments représentent tout de même, Tara Schlegel, un trafic de 200 milliards d'euros.
Il est toujours difficile d'estimer l'ampleur d'un marché noir, mais toutes les classes de médicaments sont imitées, de l'anticancéreux le plus cher au générique le plus banal. Geoffroy Besseau coordonne la lutte contre les faux médicaments chez Sanofi. L'Afrique est particulièrement frappée, dit-il.
Au Nigeria, par exemple, 60 à 70% d'une classe thérapeutique, qui est celle des antalgiques, donc les produits antidouleurs, sont constitués de médicaments contrefaits falsifiés. Donc ça veut dire que pour les patients de ces pays, c'est une menace de santé publique considérable.
Sanofi a créé un laboratoire qui analyse ces tablettes composées parfois de métaux lourds, de substances frelatées.
Tout produit a ce qu'on appelle une signature chimique. C'est comme une empreinte digitale, si vous voulez. Il se trouve que dans notre laboratoire, on a analysé à peu près 40 000 échantillons suspects du monde entier. Donc, quand on a cette empreinte chimique et qu'elle ressemble à un produit déjà connu qui se trouvait venir de telle région de Chine ou d'Indonésie ou d'Amérique latine, ça permet d'accélérer la traçabilité, la recherche du réseau d'origine.
L'industriel prévient alors les autorités locales qui peuvent sévir. Avec la nouvelle traçabilité, en Europe au moins, la chaîne de distribution des médicaments est presque inviolable. Mais rien n'est définitivement gagné. Geoffroy Besseau.
Sur Internet, on estime qu'il y a à peu près 50 à 60 000 sites qui proposent des médicaments, je mets des guillemets. 97% de ces sites agissent en toute illégalité.
Même en France, hein.
Ah ben le site internet n'a pas de limite.
Voilà pourquoi il faut profiter du réseau de pharmacies extrêmement dense qu'on a en France et continuer à lutter à l'échelle mondiale.
À Paris, à Bordeaux, Marseille ou encore Nice, la circulation pourrait être compliquée ce matin. Les moniteurs d'auto-école protestent contre la réforme du permis de conduire. Elle sera présentée demain. Ces moniteurs craignent que leur travail de proximité ne soit menacé par les plateformes en ligne pour passer le permis de conduire. Des opérations escargots sont donc prévues, notamment sur le périphérique parisien ce matin. La droite et l'extrême droite, main dans la main en Espagne. 45 000 personnes, selon la police, ont défilé hier à Madrid contre le socialiste Pedro Sanchez, le chef du gouvernement. Il l'accuse d'avoir trahi l'Espagne en dialoguant avec les indépendantistes catalans. Parmi les manifestants hier, il y avait l'ancien Premier ministre français Manuel Valls. Le candidat à la mairie de Barcelone estime qu'il ne faut pas laisser l'avenir du pays aux mains des séparatistes, des nationalistes et des populistes. En Allemagne, le SPD présente un programme social, tournant ainsi le dos au libéralisme à la Schröder. La direction du parti réunie ce week-end s'est tournée vers cette nouvelle année 2019, marquée par les européennes, des élections municipales et trois élections régionales également en Allemagne. Des élections pour lesquelles le SPD est bien mal parti, Nathalie Versieux.
Le SPD n'est plus crédité que de 15% des intentions de vote. Selon certains observateurs, le plus vieux parti d'Allemagne, fier d'avoir été le seul à résister au national-socialisme, pourrait même disparaître du paysage politique. Pour les sympathisants comme pour la direction, la cause de cette débâcle est à chercher du côté des réformes d'inspiration libérale que l'ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder avait imposé à son parti voici 15 ans. Le SPD ne s'est jamais remis de cette cure de libéralisme. Pour reconquérir l'électorat, la direction a décidé de mettre le cap à gauche. Le programme prévoit une augmentation du salaire minimum à 12 euros de l'heure au lieu de 9 euros aujourd'hui, l'augmentation des minimums sociaux pour les enfants vivant dans les familles pauvres, ils sont 2 millions dans le pays, l'allongement de la durée de l'indemnité chômage pour les chômeurs âgés ayant travaillé 35 ans et la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée grâce à un droit au télétravail et aux périodes sabbatiques. L'aile gauche du parti approuve. Les plus sceptiques se demandent comment le SPD compte financer toutes ces réformes s'il revenait au pouvoir.
Nathalie Versieux pour France Culture. Partons maintenant en Autriche, où l'État va devoir débourser 1,5 million d'euros pour dédommager l'ancienne propriétaire de la maison natale d'Adolf Hitler. Elle avait été expropriée moyennant près de 300 000 euros, pas assez, avait-elle estimé. Et la justice autrichienne a donc tranché en sa faveur. Les précisions d'Isorias.
C'est au nord de l'Autriche, à Braunau am Inn, que se trouve la maison de la discorde, celle où naquit Adolf Hitler le 20 avril 1889. Une vieille bâtisse jaune de 800 mètres carrés qui déchaîne les passions depuis des décennies. Pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage des néo-nazis, le gouvernement autrichien fait voter en 2016 une loi pour pouvoir exproprier Gerlinde de Pommer. Cette dernière conteste la décision, mais la Cour constitutionnelle donne raison à l'État, qui devient donc le nouveau propriétaire propriétaire et verse à Gerline de Pommer 310 000 euros de dédommagement. Un montant trop faible aux yeux de cette dernière qui vient donc à son tour d'obtenir gain de cause en vertu de la décision d'un tribunal régional qui enjoint l'État autrichien à lui verser 1 500 000 euros. Jugement dont l'État peut toutefois encore faire appel. Cette bataille juridique illustre la controverse persistante en Autriche autour de cet héritage gênant, certains prônant la destruction de la maison, d'autres la création d'un lieu éducatif sur le nazisme. Le bâtiment devrait finalement être conservé, mais on ne sait pas encore à quelle fin. L'hypothèse d'un centre d'accueil pour les personnes handicapées, fonction que la bâtisse a eue durant plusieurs années, a été avancée par le ministère de l'Intérieur.
Isoria Savienne pour France Culture. Et puisque l'on évoque l'héritage d'Adolf Hitler, retrouvez un article complet sur les mises aux enchères d'objets ou de tableaux nazis, Hitler aux enchères. C'est sur notre site internet franceculture.fr. La pluie s'en va vers l'est aujourd'hui pour quitter le territoire français en fin de journée et le soleil va s'affirmer un peu. Il va arriver par l'Atlantique ce matin. Comptez 4 degrés à Lille, 5 à Strasbourg et Lyon, 7 degrés à Paris, 11 à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Pour votre journal des idées, vous nous emmenez en Syrie ce matin, alors que l'assaut a été lancé par la coalition arabo-kurde contre le dernier réduit du groupe État islamique en Syrie. Le scénario de l'exfiltration des anciens combattants de l'organisation se précise, Jacques.
Oui, d'après Le Monde, ce serait dans le cadre d'une opération internationale coordonnée, notamment appuyée par les États-Unis. Selon cette hypothèse reposant sur un accord entre alliés, il s'agirait d'organiser une sorte de pont aérien permettant l'évacuation des djihadistes étrangers de Syrie. Un système qui aurait l'avantage de pallier le manque de moyens de certaines nations pour récupérer leurs djihadistes et d'encadrer la sortie des personnes concernées avec toutes les garanties du droit international. Alors que la France freinait des quatre fers sur les rapatriements de djihadistes, arguant qu'ils pouvaient être jugés sur place et que seuls les enfants pouvaient faire l'objet d'une exfiltration, l'annonce par le président américain du retrait des troupes américaines de Syrie a accéléré le calendrier et modifié la position française. Ce qu'on redoute aujourd'hui, c'est que les Kurdes, jusque-là soutenus par les États-Unis, relâchent la surveillance des combattants étrangers dans leur camp, avec à la clé un risque d'évasion et de dispersion. Sans confirmer l'information, rapporte Courrier International, le ministre français de l'Intérieur a déclaré mardi que ceux qui rentreront en France seront judiciarisés et confiés aux juges. Interrogé par le quotidien britannique The Telegraph, un responsable de la place Beauvau a précisé qu'aucun détail pratique n'a été arrêté pour l'instant, ni la nature des opérations visant à les rapatrier, ni le nombre exact de personnes concernées, ni la date. Environ 130 ressortissants français, une cinquantaine d'adultes, hommes et femmes, et une dizaine d'enfants sont détenus par les forces démocratiques syriennes, majoritairement kurdes. Mais comme le rappelle Le Point, leur nombre pourrait augmenter alors que les dernières poches du groupe État islamique, désormais accusées sur un territoire de 4 km², sont en train de tomber. L'hebdomadaire indique que face à la menace turque, les Kurdes syriens négocient un accord sécuritaire avec le régime de Damas, qui pourrait alors mettre la main sur des centaines de djihadistes. Si l'on se souvient que, dès le début de la révolution syrienne, ce régime avait libéré les plus dangereux d'entre eux afin de grossir les rangs de l'État islamique et d'ouvrir un nouveau front dans le pays pour apparaître comme le recours, on ne peut que s'inquiéter de son pouvoir de nuisance s'il venait à récupérer d'ex-combattants de l'organisation. Parmi les djihadistes retenus par les FDS figurent plusieurs responsables français de l'État islamique, dont Adrien Guial, membre de la filière d'Artigat, qui a planifié plusieurs attentats en France, dont celui de Nice, rappelait The Telegraph. La dernière livraison de la revue Ethnologie française est consacrée aux effets sociaux des attentats. Contribue-t-il à renforcer la cohésion nationale ou font-ils apparaître des clivages plus profonds, comme après l'attentat de Charlie Hebdo avec les débats autour d'être ou ne pas être Charlie. Une fois passé l'effet de souffle de l'événement, ces attaques laissent place à des conflits d'interprétation et des débats contribuant à en amplifier l'impact social, relève Jérôme Truc, qui insiste sur l'intérêt de la démarche ethnographique, de terrain et qualitative, par rapport aux enquêtes quantitatives fondées sur les sondages d'opinion. À la thèse classique de Georg Simmel sur les effets fédérateurs d'une attaque extérieure, le travail de terrain et les études de cas viennent apporter des nuances significatives. Randall Collins, qui a étudié les effets des attentats du 11 septembre sur la société américaine, souligne que tout conflit n'augmente pas en soi la solidarité de groupe. L'élément clé de ce processus est l'incident déclencheur, mais la solidarité est produite par les interactions sociales au sein du groupe, pas par le conflit en lui-même en tant qu'événement extérieur. Dans l'enquête conduite par Nancy Foner après le 11 septembre, il apparaît que l'impact de l'attentat dans la population new-yorkaise a considérablement varié selon le groupe social ou professionnel ou selon le quartier que l'on considère. Ceux qui étaient déjà dans des positions de marginalité, de vulnérabilité, les travailleurs immigrés de Chinatown ou les arabo-musulmans de Jersey City par exemple, ont ainsi plus durement souffert de leurs conséquences que d'autres New-Yorkais, même plus directement exposés aux attentats. Greg Smith-Misson, qui a mené l'enquête dans le quartier UP de Battery Park City, voisin du World Trade Center, et où de nombreux habitants ont eu à déplorer des victimes parmi leurs proches, a montré comment l'entre-soi de classe a pu les aider à surmonter l'épreuve jusque dans le rejet des autres New-Yorkais amenés à traverser leur quartier, à faire usage de ces espaces publics, notamment en période de commémoration, des passants recueillis, alors désignés comme des touristes. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les frappes aériennes au Tchad, la France est-elle l'alliée indéfectible d'Idriss Déby?
Oui, la France qui a apporté au président tchadien sa puissance de feu la semaine dernière en bombardant à plusieurs reprises des colonnes de pick-up entrées au Tchad par le nord, par la Libye. Les Mirage 2000 ont détruit une vingtaine de ces véhicules, lesquels peuvent convoyer une dizaine de combattants chacun, selon en tout cas une source militaire citée par le journal Le Monde. Qui sont ces combattants? Des hommes de l'Union des Forces de la Résistance, l'UFR, déjà à l'origine d'une tentative de putsch en 2008, stoppée in extremis aux portes du palais présidentiel, grâce d'ailleurs à l'appui de l'allié français. Ils sont emmenés par le neveu d'Idriss Déby et composés de combattants Zagawa, l'ethnie du président. Pour justifier cette intervention militaire, le premier ministre français Édouard Philippe a invoqué l'article 35 de la Constitution devant les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est parce qu'Idriss Déby a demandé assistance que la France est entrée en jeu, comme le prévoit, dit-il, un accord de coopération militaire technique qui remonte à 1976. Bonjour Roland Marchal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et basé au laboratoire du Centre de Recherche Internationale, le CERI Sciences Po. Vos recherches portent sur l'économie et les conflits dans l'Afrique subsaharienne. Roland Marchal, ces combattants dont la France a aidé le régime tchadien à se débarrasser, en tout cas pour partie, terroristes ou opposants?
Écoutez, opposants, on ne sait... Enfin, on peut évidemment, après le 11 septembre, on a vu un certain nombre de régimes en Afrique commencer à qualifier leurs opposants politiques, armés ou civils, de terroristes. Au Tchad, ça a été relativement tard, ça a été après la normalisation qui s'est produite en 2009 avec le Soudan et qui a permis donc d'éteindre largement un épisode particulièrement dangereux de soulèvement armé dans l'est du pays. Et depuis cette date-là, effectivement, tous les opposants armés sont qualifiés de terroristes. Je crois que après, il faut raison garder, l'UFR avait des contingents réfugiés en Libye qui travaillaient avec les milices islamistes de Misrata, mais on est très loin de l'État islamique. On est face à des projets différents et qui sans doute mériteraient d'ailleurs des explications de la politique française, puisque d'un côté le gouvernement français soutient le gouvernement national libyen, de l'autre il soutient l'un de ses principaux opposants, le général Haftar, qui lui a une approche très laïque, très laïciste, et surtout a le soutien également d'Idriss Déby. On est dans une ambiguïté française en Libye, Et d'une certaine façon, on est dans un simplisme français, dans un unilatéralisme français au Tchad.
Unilatéralisme que vous aviez bien décrit dans un rapport publié en 2015 sur le soutien inébranlable de la France à Idriss Déby. Vous n'avez, j'imagine, pas dû être surpris du côté complètement assumé de cette dernière intervention, même si Emmanuel Macron avait dit à un moment vouloir ériger pour principe la non-ingérence militaire dans les affaires politiques intérieures d'un pays africain.
Si, je suis surpris parce que, d'une certaine façon, peut-être par naïveté vis-à-vis de ma classe politique, je pense que tôt ou tard, il faudra bien que des hommes politiques français comprennent et admettent que, un, il faut définir les objectifs d'un soutien militaire comme celui qui a été donné au président Déby, puisqu'on l'a fait, on est intervenu de très nombreuses fois. À chaque fois, des promesses ont été faites sur des réformes internes, sur une amélioration de la gouvernance, sur une reconnaissance des droits politiques et des droits sociaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est très très loin du compte. Donc pourquoi intervenir quand le chef de l'État qu'on aide ne tient aucune des promesses qu'il a faites? Et je pensais que M. Macron serait un peu plus conséquent que ses prédécesseurs, dans la mesure où tout ce qui est dénoncé dans le cadre du Tchad fournit fondamentalement au Sahel les raisons pour lesquelles des populations optent pour le soutien au mouvement djihadiste. Alors, on pourrait se dire pourquoi soutenir les dirigeants qui créent les problèmes et qui font notre présence militaire au Sahel. Or, je vois que le président Macron est de ce point de vue-là encore plus naïf, si c'est le bon terme, que ses prédécesseurs, et donc j'ai une certaine inquiétude sur les enjeux réels de la France derrière le Tchad et au Sahel.
Dans lequel de ces trois courants de pensée que vous décriviez en 2015, vous placeriez le président français? Est-ce que c'est un réaliste parmi ceux qui pensent qu'il vaut mieux avoir Déby avec soi parce qu'au moins on le connaît? Un néoconservateur pour qui Déby est un rempart face au chaos libyen et au Soudan, ou un admirateur d'Idriss Déby?
Écoutez, je ne sais pas, je crois que les relations, je crois que d'un côté, l'administration française, et notamment la présidence de la République, est très au fait de la réalité tchadienne, du fait que une très grande partie de la population est marginalisée, que le débat se tient à l'intérieur, je dirais pas simplement de la famille d'Idriss Déby, mais d'un petit groupe qui n'est pas seulement Zagawa, et que c'est une oligarchie militaire qui tient le pays, et avec comme fragilité très grande le fait que, bien sûr, on se déteste ardemment et que la seule unité est celle de Déby lui-même. Et le jour où Idriss Déby disparaît de ce paysage, que va-t-il se passer au Tchad? Dans quel état sera le Tchad? C'est des questions auxquelles n'importe quel état qui veut aider et apporter la stabilité au Sahel doit répondre. Or, les réponses françaises, pour l'instant, elles sont extraordinairement silencieuses. D'un autre côté, par rapport à d'autres dirigeants de la région, Idriss Déby a certainement des qualités qu'apprécie Emmanuel Macron. Il parle cash, il dit les choses comme elles sont, enfin, tous les cas comme il les voit. Il fait aussi ce qu'il dit, au moins jusqu'à un certain niveau, et il est prêt à discuter d'initiatives communes. Alors évidemment, tout ça est très cher, puisque la France est très généreuse vis-à-vis du Tchad officiel en termes d'aide, dont on ne sait pas très bien si ça aide réellement à limiter la crise sociale qui existe maintenant depuis de nombreuses années, depuis l'effondrement du cours du pétrole. Mais encore une fois, ce qu'on voit sur le moyen terme, c'est malgré, disons, cette nouvelle conscience des fragilités du Tchad, on voit une politique qui reste inchangée, une politique qui n'est que militaire, avec la France qui joue aussi un rôle moteur pour vis-à-vis d'autres institutions qui continuent à financer le régime tchadien qui est, disons, peu propice aux réformes. L'Union européenne, le FMI, à cause de l'influence que la France y dispose en ce moment, sont deux institutions qui jouent un rôle majeur dans la mitigation de la crise. Et c'est évidemment, encore une fois, positive d'un certain côté, puisqu'il ne faut surtout pas que le Tchad s'effondre, mais il faut que les populations vivent mieux et qu'elles aient le droit d'expression, des droits de vote qui soient réels et pas fictifs, comme on l'a vu depuis maintenant plus de 15 ans. Et de ce point de vue-là, la France est merveilleuse par son silence.
Alors justement, lutter contre le terrorisme en apportant pas seulement une réponse sécuritaire mais aussi une réponse sociale de développement, ce sera au cœur du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre à Nouakchott en Mauritanie aujourd'hui. Pour l'instant, cette réflexion n'existe pas au Tchad. Idriss Déby n'a pas mené cette réflexion-là, n'a pas mené cette réforme.
Écoutez, si demain matin... il le faut, le président Déby organisera un grand colloque international. Si vous voulez, vous n'êtes pas en face d'un soudard, vous êtes en face d'un homme d'État qui est un militaire, qui a une pensée militaire, qui est très porté sur la résolution coercitive des crises sociales internes, mais qui est absolument pas un imbécile. Donc si demain il faut jouer... une carte d'ouverture, faire des réunions, faire des colloques, inviter des personnalités ou des journalistes étrangers.
Il saura faire.
Regardez, on change, il le fera, il l'a déjà fait. Et la question qui se pose au Tchad, comme dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, c'est une fois qu'on a fait les belles déclarations, une fois qu'on a voté les bonnes lois, comment est-ce qu'on les met en œuvre et qui sont ceux qui sont les intouchables?
Pour conclure, Roland Marchal, en fait, de menaces sur le régime d'Idriss Déby, ces colonnes d'opposants qui ont été bombardées, elles représentaient quoi? Une cinquantaine de pick-up. Idriss Déby a connu menaces bien plus grandes, notamment en 2006 et 2008, sans que la France ait à intervenir, disons, en puissance de feu. À l'époque, c'était un soutien surtout logistique et de renseignement. Est-ce à dire que le président tchadien est très affaibli aujourd'hui, et pas seulement à cause des 10 années qui se sont écoulées, pas seulement à cause de son âge?
Oui, enfin, je crois pas qu'il soit si affaibli que ça. Je crois surtout que le but de cette colonne militaire, c'est d'abord d'échapper à des combats qu'ils auraient perdus en Libye, et puis ensuite c'était essayer de constituer un petit noyau qui aurait servi à créer une coalition des mécontents. Et celle-ci aurait été, comme ça s'est passé dans les années 2000, extrêmement large, dans la mesure où il y a beaucoup de gens sont très, et y compris dans des groupes ethniques ou dans des groupes sociaux qui jouent un rôle important dans la stabilité du régime. Beaucoup de gens donc sont aujourd'hui extrêmement mécontents de la gestion et évidemment cherchent une alternative.
Merci Roland Marchal. Oui, je vous laisse finir.
Est-ce que ces fronts militaires sont réellement une alternative? Personnellement, j'en doute.
Merci beaucoup Roland Marchal d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS et chercheur donc au CERI Sciences Po. Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Long Way Home, prix du jury au Festival de cinéma américain de Deauville. À sa sortie de prison, Angèle, 18 ans, retrouve sa jeune sœur Abby dans sa famille d'accueil à Philadelphie.
Who you? That's my sister, dummy.
Malgré leur profonde complicité, le drame qui les a séparés a laissé des traces.
I wanna do something with my life, but every time I try, there's always something.
Avant de tourner la page, Angèle sait qu'elle doit se confronter au passé et convainc Abby de l'accompagner dans son périple. Ensemble, elles prennent la route sans mesurer ce que va provoquer chez elles ce retour aux sources.
Do you think I'm like
it? I think you're the greatest.
Long Way Home de Jordana Spiro, mercredi 13 février au cinéma. Un film France Culture.
Xavier Martinet revient demain pour les enjeux internationaux. Il est 6h57 sur France Culture. Les matins commencent. Bonjour Guillaume Herner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à tous.
Les réseaux sociaux rendent-ils bêtes et méchants?
Oui, c'est le vieux débat qui est relancé après la découverte des exactions d'une certaine Ligue du LOL. Alors cette Ligue du LOL, Julie, elle est composée de journalistes, de gens de communication, principalement des hommes. Et ils auraient harcelé principalement des femmes. Ça s'est passé vers la fin des années 2000. Ils sélectionnaient leurs victimes et se défouraient sur elle, au mieux à coups de blagues lourdingues, au pire avec des actions menaçantes, une sorte de bande à la Orange Mécanique version 2.0. En somme, dans la Ligue du LOL, la seule chose qu'il y avait de vrai, c'était le mot Ligue. Parmi ces gens, certains sont aujourd'hui des journalistes au travail sérieux, d'où les interrogations que ces révélations nourrissent. Une sorte d'affaire Mehdi Meklat collectif du nom de ce jeune homme qui tweetait des horreurs racistes sous un pseudo connu de tous. D'où le retour de cette interrogation. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils si accueillants pour les trolls au point de transformer en trolls des gens a priori équilibrés? Alors on peut bien entendu disculper l'outil, un peu comme si on disait qu'un couteau est innocent lorsqu'il est impliqué dans un assassinat. Mais j'avoue que cette hypothèse ne me satisfait qu'à moitié. Bien entendu, c'est le harceleur qui harcèle et doit donc répondre de ses actes et de ses propos machistes, homophobes, etc. Mais comment expliquer leur abondance sur les réseaux sociaux? Eh bien, peut-être grâce à cette affirmation de Paul Valéry, le fond est une forme impure. Le fond est une forme impure, cela veut dire que la forme d'un message influe sur son fond. Cela voudrait dire que les réseaux sociaux sont un lieu finalement propice aux messages haineux, minables, aux remarques de dingue que l'on n'oserait pas formuler dans le monde réel. Empiriquement, cette assertion est évidente. Il suffit de jeter un coup d'œil sur Twitter pour se dire qu'heureusement, le monde réel ne ressemble pas à cela, en tout cas pas encore à cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un moyen de communication n'est jamais neutre. La forme brève, la prédominance du virtuel, l'existence d'un certain type de vocabulaire et d'échange, le souhait de trouver la formule qui tue, ou bien encore un moyen de communication qui est plus fait pour asséner que pour échanger. Tout cela pourrait expliquer que les réseaux sociaux soient finalement beaucoup plus réseaux que sociaux.